C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques.
Et bienvenue dans ce nouvel enregistrement, mais pour vous, c'est le premier enregistrement de cet épisode, puisque suite à un bug technique, nous avons perdu notre piste. Donc si nos blagues ne sentent pas naturelles, c'est parce que c'est la deuxième fois que nous les faisons.
Eh oui, la nature est cruelle.
Voilà.
De quoi tu vas nous parler, Louise ?
Ouais, j'étais en train de dire, il faut que tu rappelles que c'est notre anniversaire.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah, du coup, on vous l'avait déjà dit, mais vous ne le saurez pas, donc on vous le redit. Oh là là, c'est notre anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Non.
Joyeux voilà. Anniversaire.
Joyeux anniversaire à nous, et si vous nous écoutez depuis un an, eh bien, joyeux anniversaire à cette belle relation. Ça a duré un an. C'est plus long que certaines relations.
Ouais, c'est beau. Vous avez beaucoup de force.
Force à vous, bravo, félicitations.
Et du coup, pour célébrer cet anniversaire, qu'est-ce que tu as prévu d'aborder aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler d'une autre célébration, qui est la célébration d'Ostara. Est-ce que tu connais Ostara, Louise ?
Je connais Ostara parce que tu as fait une story Instagram et parce que tu viens de me l'expliquer, mais du coup, on est dans le passé.
Ça va absolument pas être spontané, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous revoyez
la
un
répétition.
Film avec un ami. Voilà. Et vous savez déjà ce qui va se passer, mais du coup, vous pouvez apprécier le reste. Et oui, du coup, j'avais fait une petite story sur le compte Instagram pour Ostara. Et c'est aujourd'hui qu'on va parler d'Ostara plus en détail. Et toi, Louise, tu vas nous parler de quoi ?
Eh bien, moi, je vais te parler de Elisabeth de Renfeng. Elisabeth de Renfeng, je te l'avais teasé quand on préparait l'épisode en te disant que c'était le retour aux sources.
Et moi, j'avais absolument pas trouvé de quoi il s'agissait.
Évidemment. Pourquoi le retour aux sources ? Parce que Elisabeth de Renfeng, elle est aussi surnommée l'énergumène de Nancy.
Et pourquoi retour aux sources, Nancy ? Parce que...
Pour l'anecdote, Marion et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de l'université de Nancy.
Oh là là.
Voilà.
Je me rappelle, tu m'as fait un toc-toc sur l'épaule pour me dire « Tu veux qu'on se mette ensemble pour l'exposer ?»
Exactement.
Et j'ai dit « Oui !» J'étais tellement contente que quelqu'un me le demande alors que j'avais absolument pas envie de demander aux autres.
Ouais. Et on a dû travailler sur... la linguistique dans la pub Panzanie.
Oh,
De comment il s'appelle, son nom me revient plus.
Deleuze.
Non.
C'est pas celui-là.
C'est pas un bleu. Non, c'est pas lui.
Aucun souvenir de cet exposé.
Ah bah heureusement qu'on a fait des ZDD, tu vois.
C'est André Breton.
Non.
Un autre.
Je cherche. Non, je ne vais pas pouvoir continuer cet épisode.
Attends, pourtant, on n'arrête pas de se faire des inside jokes avec ce monsieur.
Roland Barthes.
La pulsion scopique.
Exactement,
oui.
Voilà. On est unis par Roland Barthes.
On est unis par Roland Barthes. Je ne sais pas si c'est une bonne manière d'être unis, mais en tout cas, on est unis.
Voilà. Et donc, pour revenir à Elisabeth, parce que Roland Barthes, ce n'est pas le sujet de la chronique, j'ai un peu triché pour le choix de ce sujet parce que c'est pas une histoire de sorcière, c'est plutôt une histoire de démons et de sorciers.
Mais ça compte.
Et comme c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut.
Exactement. Oh, tu t'es pas trop éloignée du thème non plus. C'est pas comme si tu avais fait une chronique sur un plombier, tu vois.
Elisabeth de Renfeng, elle est née en 1592 dans les Vosges. Oui. Ce qui est déjà un début de vie difficile puisqu'elle est vosgienne.
Et vous m'aviez pas entendu rire, mais je trouve que cette blague est d'une cruauté parce que ben,
oui.
Les Vosgiens ont un accent absolument charming. C'est mon deuxième accent le plus sexy après l'accent anglais. Deal with it, les Anglais.
Mais chaque région a une communauté dont elle se moque. En Lorraine, on se moque des Vosgiens.
Voilà. Chez moi, on se moque de qui ? Bon, on se moque de nous-mêmes. Voilà.
Vous êtes la communauté dont les gens se moquent.
On est la communauté dont les gens se moquent. Voilà.
Et donc, non seulement la pauvre Elisabeth, elle est vosgienne, mais en plus, quand elle a 16 ans, ses parents, ils veulent la marier de force. Ce qui n'est pas très sympa. Et comme elle n'a pas tellement envie, elle va fuir dans un monastère. Mais manque de chance, elle va être retrouvée et on la marie.
C'est pas de bol, hein, parce que c'est un bon plan de fuir dans un monastère. Pourtant, je trouvais que c'était pas mal comme idée.
Alors, elle avait 16 ans. Je vous laisse, cher auditeur, essayer de deviner l'âge de son mari. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. L'âge de son mari était 56 ans.
Moi, j'avais parié sur 54.
40 ans de différence.
J'étais pas loin. Ah, il pourrait être son... Bah, du coup, s'ils se mettent tous à avoir des gosses à 16 ans, oui, il pourrait être son grand-père. Oui. Effectivement, c'est possible.
Ouais.
Tout est possible.
Ensuite, devinez combien d'enfants elle va avoir. La réponse, 6 enfants.
J'avais dit 9.
Et ensuite, comme on est dans le 17e siècle, devinez combien des 6 enfants vont survivre.
3.
À la réponse, 3 enfants seulement vont survivre.
Donc très exactement 50% des enfants.
Pour être exact. Petit moment un peu plus positif. Son sympathique mari va quand même mourir.
Injustice.
Mais l'a laissée veuve à seulement 24 ans avec des enfants à la charge.
Oubliez ce que je viens de dire, il n'y a pas de justice. Veuve, 24 ans, des enfants à la charge. Vraiment, c'est...
Retrouvez le portrait d'Elisabeth de Ronfin dans le notre
cauchemar
podcast.
Vosgienne.
Donc, sûrement pour ces raisons, la pauvre Elisabeth a une santé mentale très fragile. Du coup, elle va souvent devoir aller voir son médecin, et son médecin, qui s'appelle Charles Poirot, comme un poireau, le poireau va essayer de soigner la pauvre Elisabeth.
Si seulement c'était un
Sauf
vrai
que,
poireau.
C'est pro.
Si seulement.
Je vois la scène.
Elle aurait peut-être été soignée.
Sauf qu'on est au début du XVIIe siècle et que la cicatrice n'existe pas. Et du coup, elle n'est pas vraiment soignée et ça se passe très mal. Elisabeth va commencer à montrer des signes de possession démoniaque.
Chaud.
Donc, elle va avoir des convulsions. Elle va parler des langues qu'elle a pourtant jamais apprises. Elle va s'élever dans les airs.
Ça, par contre, en soi, c'est... je rêve pas d'être possédée. Mais... le coup de la lévitation, c'est quand même classe.
Ouais. Ouais, moi aussi. Je me faisais la réflexion cet après-midi que souvent je dis que si je devais avoir un super pouvoir, ça serait être invisible. Mais en même temps, la lévitation, ça me tente de plus en plus.
Ça fait un peu peur le côté la gravité. Non, j'aime bien le plancher des vaches quand même, tu vois.
Et pourtant, j'ai le vertige.
Être invisible, il y a quand même beaucoup de. Bah, ouais, moi aussi. Et pourtant, je fais beaucoup de rêves où je vole.
Ah, moi aussi.
Oui, mais toi, t'as lu en signe d'air, donc j'ai envie de dire, c'est logique. En plus, t'as un profil uranien, donc vraiment, on est dans le...
En tout cas, devant ces symptômes peu communs, beaucoup de scientifiques, entre guillemets, vont venir à Nancy pour voir Elisabeth. Il va y avoir des théologiens de la Sorbonne, et même des personnes qui viennent d'Angleterre, et qui vont tous conclure que c'est probablement une possession.
Probablement. J'aime bien le « oh, c'est probablement une possession ». Et si c'est pas une possession, je mets ma main à couper qu'elle a une gastro.
Et du coup, qui dit possession dit...
exercice.
Oui, pas de réponse.
Ouais.
Donc, on va faire appel à un professeur pour exorciser Elisabeth. Un professeur qui s'appelle...
les experts. Claude.
Richard. Non, Pitoys. Alors, je ne sais pas comment Merde. Ça se prononce. P-I-T-H-O-Y-S.
Oui, yo, oh, Pitoys. Pitoy.
Pitoys, ça sonne mieux. Sauf que Claude Pitoys, c'est quelqu'un comme moi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sceptique. par rapport à l'exorcisme et à la possession des démons. Du coup, il va mener sa petite enquête et il va conclure que en fait, elle n'est pas possédée. Il pense plutôt qu'elle a été droguée par son médecin, par le poireau.
Probable.
Et
droguée par le poireau.
Et du coup, si elle,
essayez pas ça chez vous.
Si elle a des convulsions, bah, c'est pas une possession, c'est les effets de la drogue. Voilà.
Et il avait peut-être bien raison, le monsieur.
Voilà, sauf que les Lorrains au XVIIe siècle, ils veulent pas du scepticisme et du rationalisme, donc le pauvre Claude Pitoys, il est renvoyé, et on fait appel à un autre médecin qui s'appelle Rémy Pichard. Rémy Pichard.
Ah, c'est lui, Pichard.
Voilà, en bon français, il va faire un exorcisme comme on lui a demandé.
Pour les règles.
Voilà. Et donc, du coup, on va préférer un professionnel qui va valider l'idée qu'on avait plutôt qu'un professionnel qui va s'appuyer sur des preuves réelles pour faire son diagnostic. On va faire passer la foi avant la science et les temps ont bien changé depuis.
Et ça, les sœurs d'Aigle n'aiment pas.
Voilà. Pas content.
Pas content.
Par contre, Rémy Pichard, il est d'accord avec Claude Pitoys. Il trouve qu'il y a un truc louche avec le poireau. Sauf que du coup, au lieu de l'accuser d'être de droguer Elisabeth, il va l'accuser d'être un sorcier. Et un sorcier qui va charmer et posséder Elisabeth.
Et toujours plus loin, en fait. Toujours plus loin. Et plus c'est gros, plus ça passe.
Exactement. Et donc, Poirot va être jugé coupable, ce que même Agatha Christie n'aurait pas pu imaginer.
Ça fait deux fois qu'on me fait la blague, ça fait deux fois que je rigole.
C'est rigolo. Attends, il y a une autre blague qui arrive. Poirot va être condamné à mort et brûlé en 1622. Ça va donc être un poireau brisé. Lol. Lol. Voilà, voilà.
Ce à quoi je répondrais plutôt un poireau rôti, parce que je pense qu'un poireau braisé rendrait trop d'eau, tout simplement, ou deviendrait sec. Et je pense que rôti, c'est bien, il garderait un peu...
Oui, mais il a été brûlé, il n'a pas été rôti.
Oui, bah, le Hercule Poirot, là, c'est sûr que lui... lui, il était sec, pour le coup, sans doute. Ce qu'on ne souhaite à personne, hein, se dit en passant. Voilà. C'était un piètre personnage, mais c'est quand même une mort horrible.
Atroce. Revenons sur Elisabeth, par contre, qui, elle, n'a pas une mort atroce, puisque elle va rejoindre les ordres et fonder l'ordre... Ouais, elle va fonder l'ordre du Refuge de Nancy, qui est un ordre, à l'époque, qui était situé rue Saint-Nicolas, pour ceux qui connaissent Nancy. Et l'ordre du Refuge de Nancy, c'était un ordre qui était dédié aux femmes qui étaient anciennement prostituées, et donc c'était un lieu d'accueil pour elles.
Donc en fait, c'est un peu une success story. Pour elle, en tout cas.
Pour Elisabeth, voilà.
Parce qu'elle finit...
Elle part du plus bas et elle finit, elle finit avec un job plutôt cool.
Ouais. Du coup, c'est ce que j'avais demandé. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus ses enfants, mais bon, a priori, elle les a quand même pas laissés mourir de faim, quoi. Alors, tu crées pas un refuge pour des personnes dans le besoin et tu laisses tes...
En tout cas, Elisabeth de Rouenfin, ce qu'on sait sur sa fin de vie, c'est qu'elle va décéder à 56 ans, le 14 janvier 1649.
Ce qui est l'équivalent de nos 87 ans.
Voilà. Et son histoire a beaucoup intrigué, à la fois des religieux, des chercheurs. Il y a beaucoup de personnes qui, sur les années après sa mort, ont cherché à trouver pourquoi elle a eu ces symptômes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que c'était de la drogue, est-ce que c'était vraiment une possession, est-ce qu'il y avait une maladie. Et évidemment, on n'a pas la bonne réponse, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé.
Est-ce que c'était prémédité?
On ne le saura jamais.
Est-ce que
prémédité.
C'était
Est-ce qu'elle a fait semblant? Est-ce que c'était vraiment la faute de Poirot?
Fumer le Poirot.
Il y a plein de théories, et le pire, c'est que toutes les théories sont crédibles, donc choisissez celle que vous préférez.
Moi, j'aime bien la théorie. C'est le syndrome de...
De Claude.
Le syndrome de Claude. Ouais, ça... Ou psychologiquement, elle s'est persuadée que... Ouais, je pense qu'elle
s'est persuadée d'être... Moi, je crois que Claude, tu penses que le médecin l'a droguée.
Oui, alors, il y a ça. Mais s'il ne l'a pas droguée, Dans tous les cas, peut-être que genre il l'a séquestrée et que du coup elle était assez mal pour développer des symptômes.
Ce n'est pas un podcast true crime.
On essaie de comprendre. Si vous étiez là à l'époque, envoyez-nous un message.
Donc, voilà, on n'a pas de bonne réponse. On n'a pas de conclusion à vous donner. En tout cas, pour une fois, je laisse après une chronique historique sur une fin où la femme n'a pas fini exécutée. N'est pas fini exécutée.
Elle
n'a pas fini exécutée.
Elle n'a pas été. Parce que sinon, ça fait comme si tu disais « elle est
pas été ». Ah ouais, c'est moche. En tout cas, elle n'est pas morte. Enfin, si, elle est morte, mais à 56 ans.
Et c'est quasiment un conte de fées, du coup, à l'échelle de ce podcast.
Voilà. Donc, à part pour Poirot, tout est bien. Qui finit bien.
Oh là là. Deuxième histoire. Du coup... Est-ce que, Louise, avant d'avoir vu mes stories sur le compte Instagram de C'est pas sorcière auquel on vous recommande vivement de vous abonner, est-ce que tu connaissais Ostara ?
Non, et c'est pour ça qu'il faut s'abonner au compte Instagram de C'est pas sorcière, parce qu'on apprend des choses.
Exactement, c'est pédagogique. Ostara, alors je précise, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est O-S-T-A-R-A, comme ça se prononce, c'est plutôt joli. C'est le nom païen qu'on donne à l'équinoxe du printemps. Donc ça fait partie des sabbats païens qui ont été repris par la suite par les mouvements néo-païens au 19e siècle à peu près, qui ont commencé un peu à romantiser un peu ça, et qui ont donné vie à la Wicca après. La Wicca sur laquelle je ferai un épisode un jour quand je serai prête, quand j'aurai trouvé un livre intéressant et pas trop...
C'est l'épisode que tu ne feras jamais, comme moi je ne ferai jamais d'épisode sur Salem, parce que je veux pouvoir dire plus de choses possibles, sauf qu'il y a toujours des choses à creuser, et donc...
Ou alors il faudrait qu'on fasse une série d'épisodes. Une série dans la série.
Alors je te rappelle qu'on a toutes les deux un emploi à côté de ce podcast, une vie sociale... Ah non, on n'a pas de vie sociale.
Ah non, c'est vrai.
Mais donc sociale, c'est jouable.
C'est jouable, tout à fait. Du coup, oui, petit rappel pour ceux qui ont raté l'épisode sur sa main, l'épisode d'Halloween, ou plutôt l'épisode sur Samhain, si on le prononce correctement à l'irlandaise. Un équinoxe, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit ont à peu près la même durée dans la journée. Et ça arrive deux fois, il y en a un à l'automne, un au printemps. L'idée avec sa main à l'automne, c'est qu'on entame la partie sombre de l'année, donc potentiellement la partie un peu difficile, notamment pour se nourrir, se chauffer. Et au printemps, du coup, c'est un peu la renaissance, puisque le soleil revient, potentiellement on peut planter des trucs et recommencer à manger et à vivre de manière un peu plus confortable. Du coup, Ostara, c'était le 20, là cette année, c'est toujours le 20.
20 mars, pour ceux qui n'écoutent pas dans la période.
C'était la semaine dernière pour nous. C'est donc le printemps, le jour officiel du printemps. C'est aussi le nouvel an perse, pour ceux qui le fêtent. Et c'est aussi le début de l'année astrologique qui commence avec les béliers. Parce que l'année astrologique commence au printemps. Ta-da ! Et donc c'était dimanche dernier. Il faisait beau. Que faisais-tu dimanche dernier à cette heure-là ?
Eh bien, dimanche dernier, j'étais chez mon grand-oncle et pour l'anniversaire de ma grande-tante. Et il avait fait une choucroute de fruits de mer, sauf qu'il m'avait gardé un peu de chou à part, parce que je ne mange pas de poisson.
Trop bon le chou de la choucroute.
Donc du coup, j'ai mangé du chou, des patates.
J'ai envie de manger du chou de choucroute maintenant. J'ai faim. Comment c'est possible que j'ai faim alors que j'ai mangé ? Bon, je ne sais pas où vous étiez, vous, le dimanche 20 mars. Je ne sais pas comment vous avez fêté Ostara. Et moi, j'ai fêté Ostara chez moi, sur mon canapé, en pyjama. Parce que la veille, j'avais fait un ménage de printemps que vous imaginez même pas, et du coup j'avais des courbatures partout. Voilà, ça sent la meuf pas sportive, et ça sent la meuf qui met vraiment toute son âme dans le ménage. Que voulez-vous ?
C'est beau, la dévotion.
Mais dis donc, Louise, d'où ça vient le mot Ostara ?
Eh bien, tu vas me le dire, Marion.
Le mot Ostara viendrait de Eostre, donc c'est E-O-S-T-R-E. Avec un accent droit sur le E, je ne sais pas comment on appelle cet accent, mais il est parallèle au E, et c'est, ma foi, très plaisant esthétiquement. Ça vient du vieil allemand, la langue, pas un vieux monsieur allemand, évidemment, du vieux germanique.
Vient également dans sa grotte.
Il a dit Eost. Et c'était pour dire Eost. Et cette fameuse Eost, en fait, c'était un mot germanique pour dire la déesse du printemps dans cette région-là qui n'était pas l'Allemagne à l'époque, mais vous avez compris. Et qui d'ailleurs est un mélange de langues encore plus anciennes, mélange de langues baltes et pré-indo-européennes, genre les langues qui existent avant celles que, qui ont commencé, celles dont on parle maintenant. Eh ben, elles avaient un ancêtre. Eh ben, ça, c'est avant l'ancêtre. Et ça voulait dire l'aurore slash le matin. Donc, ce qui fait tout à fait sens, puisque le printemps est le matin de l'année. Et maintenant, je vais vous raconter la petite histoire d'Eostre. L'histoire, c'est l'histoire. Eostre était une déesse du printemps fort sympathique qui s'amusait à transformer des trucs pour faire rire les enfants. Elle s'entourait beaucoup de gosses qui la suivaient dans la forêt parce que bah, elle était cool, elle transformait des trucs, normal. Elle amusait la galerie. Et un jour, au printemps, elle décide de transformer un petit oiseau en petit lapin. Et là, vous vous dites, mais enfin
quelle horreur!
Mais l'oiseau a-t-il consenti?
Mais enfin! Mais Eost! Mais quelle horreur!
Sauf que du coup, ne pouvant plus voler, le désormais lapin se met à totalement déprimer. Évidemment, sa famille ne le reconnaît pas, il ne peut plus faire ses trucs d'oiseau, il est triste. Il a un museau, plus un bec, bref, il n'y a rien qui va. Du coup, les enfants qui étaient avec Eost vont aller cafeter d'autres dieux. Ils vont demander à Eost de sauver les meubles.
Et
de,
ils ont bien raison!
Eh oui.
Maltraitance animale, ils doivent dénoncer.
Bravo les enfants. Et Eostre, du coup, chaque année, doit revenir au printemps pour transformer le lapin en oiseau, pour qu'il puisse au moins aller couver ses œufs comme il se doit, pour qu'il puisse avoir une descendance. Et du coup, Eostre, belle joueuse, pour remercier les enfants de lui avoir fait réparer son erreur, chaque année, elle leur apporte des œufs au printemps.
Quelle
coïncidence! Mais alors! Et oui, plot twist! Eostre est devenu Easter en anglais. Donc c'est Pâques. Et vous allez voir que la fête chrétienne Pâques et la célébration païenne Ostara ont beaucoup en commun, sauf la date qui coïncide rarement. Puisque en fait, dans les deux, alors si je me trompe pas, Pâques, c'est la renaissance du Christ.
C'est exactement, tu ne te trompes pas.
Eh bien, ça coïncide exactement avec, comme de par hasard, la signification d'Ostara, qui est la renaissance, le réveil de la nature, c'est le matin de l'année, le retour des choses sympas, la chaleur, les oiseaux, les fleurs, les abeilles, la pollinisation. Et du coup, là où ça mince, c'était vraiment le dark side, donc on entrait dans des choses assez profondes, deep, le sens de la vie, la réflexion sur la mort, puisqu'on va inexorablement vers l'hiver, pourquoi on existe, l'univers.
La vie, c'est dur.
La vie, c'est difficile. Et là, vraiment, Ostara, c'est le brunch. C'est cuit-cuit, les petits oiseaux, on prend de la vitamine D qu'on synthétise au soleil.
L'espoir de la paix.
On fait des couronnes. Oui, couronne de pâquerettes.
On chante aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Aimer,
ah merde, on n'a pas fait la même.
C'est horrible, pardon pour ce moment. Du coup, vous l'aurez compris, hein, puisqu'on l'a illustré, finalement, l'ambiance de Ostara, c'est la détente, le fun, la joie, l'optimisme. On met des choses en germe, on plante des trucs, et on sait que l'été arrive, l'été, les récoltes, les fruits, on va bien manger, ça va bien se passer. Ostara, c'est une fête, comme on l'a dit, qui est liée aux œufs et aux lapins. Mais pourquoi les œufs et les lapins, me dirais-tu ?
Pourquoi les œufs et les lapins, eh bien, je te dirai.
Je vais te raconter. Figure-toi que l'œuf, dans beaucoup de cultures européennes, est associé, sans surprise, à la naissance, mais aussi au cycle, le cycle de la vie et de la mort, mais aussi le cycle menstruel, puisque nous aussi, nous avons des œufs, c'est juste qu'on ne les pond pas. Enfin, on pond un enfant, mais il n'a plus l'œuf. Et ça représente aussi tout ce qui est en germe, le potentiel, tout ce qui est en gestation et qui va peut-être donner quelque chose. Donc ça va bien avec l'idée du printemps, qui est un peu cette une grande répétition de la nature avant l'été. Donc à ce stade de l'écriture de ma chronique, je me suis dit, mais dis donc Marion, est-ce que ce ne serait pas le moment d'utiliser ce petit dictionnaire des symboles que tu t'es offert après l'avoir offert à quelqu'un et t'être dit, je me le serais bien offert à moi en fait.
Ça a l'air vachement bien.
C'est le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guirbrandt. C'est écrit dessus « Mythe, rêve, coutume, geste, forme, figure, couleur, nombre ».
Des choses variées. Ils ont fait un brainstorming pour le titre et finalement ils ont laissé le brainstorming.
C'est clair, on sait ce qu'il y a dedans. Non mais c'est intéressant parce que dedans tu as plein en fait, d'experts de plein de disciplines différentes, des psychothérapeutes, des directeurs de revues sur l'astrologie, des maîtres de recherche au CNRS, des professeurs de lettres classiques, enfin bref, t'as plein de gens de plein de domaines différents. Et bah, figurez-vous que je m'attendais à trouver quelques mots sur l'œuf, et j'ai trouvé 4 pages sur l'œuf.
Popo.
C'était une ponte fructueuse.
Bien vu.
Qu'est-ce qu'on rigole. J'ai donc appris que dans bien des cultures, donc ça va loin, hein, ça va des Celtes aux Indonésiens, en passant par les Tibétains et les Hindous, plein de cultures, le monde en fait serait né à partir d'un œuf. Par exemple, dans la religion shintoïste, qui est une religion japonaise, le monde vient d'un œuf qui se serait cassé en deux, donnant le ciel et la terre.
Oh.
C'est pas mal. Et là, vous vous dites, mais
qui a pondu
l'œuf? Bah, c'est comme le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Et j'ai lu aussi que l'œuf symbolise pas seulement la naissance, mais la renaissance. Parce que du coup, l'idée, c'est le cycle, donc le retour perpétuel des choses. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fête à Astara. Tu fêtes certes le printemps, mais tu fêtes le fait que tu as réussi à survivre l'hiver.
Le fait
que tu as encore défié la mort. T'es là genre, ah, c'est mon 30e printemps sur Terre.
Ah, trop pas plus.
T'as eu le destin.
Je suis fatiguée.
Ah non, ça va, c'est bon. Je veux bien. Je fais comme dans les Sims, quand ils voient la faucheuse, je supplie pour avoir encore une année.
Ok, je me plains beaucoup, mais quand même.
Oh, quand même, j'aime bien, c'est sympa, on mange des trucs et tout. Donc ça, c'était la symbolique de l'œuf. Ce qui nous évoque aussi l'éternelle blague slash question existentielle. Qui vient en premier? La poule ou l'œuf?
L'œuf, parce qu'il y avait des œufs avant d'avoir des poules, là.
Voilà. Merci d'avoir cassé le suspense. Toujours faire confiance à une capricorne serre d'aigle.
C'est un plaisir. Appelez-moi pour vos soirées.
Voilà, pour ça. Non, mais... Donc on va passer au lapin, parce que là aussi j'étais surprise, en fait il y a une grosse symbolique sur les lapins. Ça comporte par contre les lapins et les lièvres, qui sont finalement à peu de choses près le même animal, on va pas se mentir. Le lièvre, il est juste plus gros, il fait plus peur quand tu le vois dans un champ et que t'es en voiture et que tu dis
« Saute pas !»
Ce sont des animaux, figure-toi, donc le lapin et le lièvre, associés à la lune. J'aurais jamais cru.
Moi non plus.
Pourquoi ? Parce que la Lune, c'est un astre auquel on associe à la fertilité, puisque c'est le satellite qui fait en sorte que la vie soit possible sur Terre via le magnétisme et plein de choses qui rendent la Terre fertile, que je ne saurais pas expliquer là, mais que les gens qui ont fait un petit peu des études, ils vous expliqueront mieux que moi. Et du coup, le lapin, lui aussi, il est associé à la fertilité, parce qu'il se reproduit à une vitesse, vous n'avez pas idée.
Ça va vite.
Le truc peut faire entre 3 et 6 bébés par mois. Ah 3 et 6 bébés par mois.
Quelle horreur.
Vous vous rendez compte?
C'est trop.
Le nombre d'enfants que peut avoir une lapine dans sa vie. Alors, on sait que c'est mignon. Mais d'ailleurs, c'était pour ça qu'ils sont mignons. C'est pour qu'on se dise, oh, un de plus. Oh, allez, d'accord, ok. Oh, mims. Ah, les lapins. Et du coup, on les associe aussi à la lune, tout simplement parce que c'est des animaux nocturnes. Rien à voir avec la forme de leur queue, j'étais un petit peu déçue, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ah oui, et j'ai pas dit aussi, mais le lapin, dans plein de mythologies, parfois, il est même la lune. Enfin, lapin égale lune. Genre, la lune est un lapin.
Un petit lapin en boulette.
Pour les Aztèques... la déesse de la lune est un lapin. Du coup, le point commun entre Ostara et sa main, c'est que c'est des sabbats de la mi-saison. Donc à chaque fois, c'est comme une transition, un peu un pont entre deux saisons. Oui, certes, mais c'est pas... Par exemple, il y a des endroits dans le monde où t'as que deux saisons, et il y a des cultures, comme la culture celte, où il y avait que deux saisons, l'été et l'hiver. Et du coup, Ostara et sa main, c'était vraiment la bascule ultime.
L'ultime bascule.
De nos jours, il y a encore des gens qui fêtent Ostara, puisque c'est devenu répandu avec le néopaganisme et tous les courants ésotériques qui s'en inspirent. Que font les gens pour fêter Ostara? Eh ben, je te le donne en mille, ils décorent des coquilles d'œufs.
Oh
ah, Pâques, la chrétienté, les chrétiens se sont dit, tiens, les sauvages, on va leur coller une fête à nous, là où ça les arrange, et puis on va leur dire que c'est eux qui l'ont inventé, et hop, ni vu, ni connu.
On met du chocolat, et ils seront bernés.
Et regarde, encore aujourd'hui, on achète du chocolat. Eh bah, bien joué.
Après, t'as le capitalisme qui se réapproprie.
La nouvelle religion.
Le chrétien. Quel sera la nouvelle réappropriation, le futur nous le montrera.
Tu crois qu'on la verra de notre vivant?
Ah, je ne sais pas.
Tu crois qu'on verra la fin du capitalisme de notre vivant?
Non. Désolée.
Zéro optimisme. C'est podcast zéro optimisme. Podcast... pessimisme podcast? Vert vide podcast. Le podcast du verre à moitié vide. C'est nous. Du coup, décorage de coquilles d'œufs. Alors, ça peut ne pas être des œufs, parce que si vous n'achetez pas d'œufs, par exemple, vous pouvez faire comme les gens qui ont des enfants et acheter des œufs en papier mâché ou faire des œufs en papier mâché pour les décorer vous-même. Ou vous pouvez aller dans la nature et trouver des pierres en forme d'œufs. Bon courage. Il faut aller près des rivières, je pense.
Oui.
Ou alors, il faut être particulièrement doué de ses mains, choisir une pierre friable et la tailler en forme d'œuf. Tout est possible. Why not?
Ouais, ça vaut pas le coup, là.
Ouais, faites attention à vos doigts, quand même. Donc, il y a ça qu'on peut faire. Après, il y a aussi tout ce qui est décoration aux couleurs du printemps. Donc, ça va être plutôt des couleurs douces, des couleurs pastel, des couleurs... J'avais dit quoi, déjà? Jaune, bleu, rouge.
Voilà. Des couleurs, ah, mais c'est primaires. Des couleurs primaires.
Et oui, en même temps, Ostara est une fête d'il y a longtemps, presque primaire en elle-même.
Oh.
L'idée, c'est que l'œuf que tu décores, donc tu y mets toute ton intention et tout ce que tu veux qu'il y ait pour la saison d'après. Alors, si c'est un œuf dans lequel tu peux mettre quelque chose, tu peux écrire un peu comme la bûche de Yule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut écrire des vœux ou ce que vous voulez. Et tu le mets dans le petit œuf et ensuite tu l'enterres. Et a priori, à un moment donné, ça devrait te ruisseler dessus. Comme la théorie du ruissellement.
Voilà.
Ah. Petite blague présidentielle, on a le droit. On peut aussi faire un rituel avec juste une graine et un petit papier. Ou juste une graine, parce que l'idée aussi avec Ostara, c'est que tu mets des choses en germe. Donc que ce soit une idée, une envie ou du basilic. Mmh. C'est le moment de faire germer des trucs. Et c'est aussi le moment de faire d'autres choses qui sont en rapport avec Ostara, parce que si votre truc, c'est pas l'ésotérisme, il y a quand même des trucs marrants à faire. Bon, déjà, on peut décorer des œufs, même si on n'a pas spécialement des pratiques magiques, parce que ça fait une activité sympa.
Bonne activité le dimanche.
Voilà. En plus, si vous avez des enfants dans votre entourage, c'est le moment de faire des trucs avec eux. Mmh. D'autant plus qu'Ostara, c'est une fête qui est liée à la joie et au monde de l'enfance, comme on l'a vu avec la légende des Ostres, mais aussi parce que, tout simplement, si on estime que le printemps est l'aube de l'année, le matin de l'année, on estime aussi que c'est le moment de l'année qui est le plus juvénile, le plus jeune, le plus foufou. Donc, c'est le moment de danser, de chanter, de faire des jeux de rôle, je sais pas, de faire des cabanes dans les bois.
Chanter la vie, de vivre la vie, de n'être qu'amour.
C'est le moment de se lancer dans des choses nouvelles, puisque c'est une nouvelle année qui commence un nouveau cycle. It's a new world, it's a new day, it's a new life. Et peut-être you feeling good.
Feeling good.
Mal.
Voilà.
Donc c'est aussi un moment qu'on estime être lié à l'énergie, parce que par exemple en astrologie, c'est le bélier qui commence le zodiaque, parce que c'est lui qui a le plus d'énergie, qui est le plus bagarreur, et du coup c'est lui qui entame le truc. Et ben là, vous pouvez vous persuader que vous avez cette énergie, même si ça n'est absolument pas le cas, et peut-être faire un truc nouveau. Alors peut-être pas forcément un truc de fou, hein. Peut-être juste... nouvelle recette. Ostara, c'est aussi lié du coup à un grand réveil, un grand renouveau. Et donc forcément, tu as envie que ta maison soit toute belle. Et c'est le but du ménage de printemps, qui est d'enlever la poussière de l'hiver, peut-être même les mauvaises ondes de l'hiver, si tu crois qu'il y a des ondes. Tu peux enlever les toiles d'araignée, si tu as envie d'embêter les araignées. Tu peux faire quelque chose qui t'amuse, qui te procure de la joie, parce que c'est une fête qui est liée à la joie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot pour signifier la joie ?
Allégresse.
Joli. Et puis tu peux tout simplement faire juste des recherches sur le sujet, sur les histoires, les légendes et le folklore du printemps, soit là où tu habites, soit là d'où tu viens, et apprendre de nouvelles choses sur le printemps. Ou tout simplement te balader, parce que quand même, il n'y a pas à dire, bravo les arbres, c'est joli. Hein.
Ouais, les petits bourgeons, c'est beau les bourgeons.
Franchement, les petites fleurs qui volent, là, pas mal. On s'en lasse pas.
Félicitations.
À chaque fois, ça m'émeut. C'est la vraie Fashion Week qui se passe en ce moment, c'est dans les arbres. Je drop le mic.
Sur un podcast, c'est embêtant.
Non, il est bien calé dans mon rouleau de PQ, t'inquiète.
Alors, pour expliquer pourquoi un rouleau de PQ, c'est parce que si vous n'avez pas de pied pour votre micro, vous pouvez utiliser un rouleau de PQ parce qu'en plus, le PQ étouffe les réverbérations.
Eh oui.
Voilà. Et comme Marion n'a pas de pied, ben elle a un rouleau de PQ. Et donc, au début de chaque épisode, elle me dit « Attends, j'arrive, je vais chercher mon PQ ».
Eh ouais.
Voilà.
Que voulez-vous ? C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais pros. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est le moment où vous pouvez aussi vous occuper de vos plantes et rempoter celles qui ont besoin d'être rempotées.
Et de le faire avant de faire votre ménage, contrairement à certaines personnes.
Voilà.
Bon, bah, c'était très bien pour cette deuxième fois pour les auditeurs première, à moins qu'ils réécoutent l'épisode.
Ça va ? Tu t'es pas trop ennuyée pour cette deuxième...
Eh bien non, écoute, je trouve que tu as pris un bon rythme. La première fois, tu étais un peu fatiguée et là tu avais un bon rythme.
Ah comme quoi finalement
Est-ce qu'on ne devrait pas faire tous les épisodes deux fois
non,
mais...
non mais c'était le destin peut-être, on n'a qu'à dire.
Ouais.
En tout cas, je pense que c'est l'heure des anecdotes.
C'est l'heure des anecdotes. Mon anecdote, elle est due à mes parents qui ont fait du tri chez eux. Et parmi les affaires qu'ils ont triées, ma mère m'a ramené un petit papier plié en deux, découpé d'un magazine J'aime lire. Et alors, sur la face, parce que c'est comme un petit livret, sur la première face, il y a marqué « Territoire administratif de la forêt de mort qui tue », document horriblement top secret et super ultra confidentiel. Et c'est un petit livre du Club des Amis de Malicette. Alors, si vous ne connaissez pas Malicette...
Le truc est super officiel.
Ouais. Si vous ne connaissez pas Malicette, quand j'étais petite, dans les magazines J'aime lire, il y avait une petite BD qui s'appelait Fripouille et Malicette. Et Fripouille, contrairement à ce que j'ai cru toute mon enfance, c'était... un petit diable et pas une petite diablesse. Et Malicette, c'était une petite sorcière qui essayait de faire de la magie, mais qui n'était pas très très douée.
C'est un petit diable, mais il a quand même une... Parce que oui, j'ai googlé. Il a quand même une cape de vampire, ouais. Un peu.
Pour revenir à ce petit livret, à l'arrière, c'est aussi écrit « Validité permanente dans le monde entier ». Attention, ce document est certifié conforme par Malicette. Tout faux ou usage de faux sera sévèrement puni à coups de baguette magique, conformément au code de la loi de mort qui tue, article 1, alinéa B.
Donc tu peux pas me faire une photocopie.
Je mettrai une photo sur Instagram, enfin même sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, de ce petit document quand nous publierons les photos qui vont avec les anecdotes. Alors, je censurerai la première page parce qu'il y a écrit mon nom, mon prénom, ma date de naissance et l'adresse de quand j'étais petite, même si j'y habite plus. Il y a aussi un petit cadre pour coller sa photo, sauf que j'ai jamais collé ma photo, apparemment. Et sur l'autre page, il y a un petit espace pour écrire son numéro secret. Et alors, attention, mon numéro secret, je vous le dévoile parce qu'on est entre nous, je vous aime bien. Mon numéro secret, j'ai décidé que c'était le 7649351.
Incroyable. Voilà. Non, mais il n'y a qu'un enfant
je sais pas.
Capricorno, serre d'aigle pour mettre un vrai code.
Eh oui, pas 00000.
On est sur quelque chose de quasiment incraquable.
Ouais. Et alors, en dessous du numéro secret, c'est écrit « Carte délivrée par Malicette, présidente du Club des Amis de Malicette, fait au château de Mort qui tue en novembre de l'an 2003. »
Ensuite, l'an de grâce.
Il y a les petits espaces pour les signatures avec la présidente Malicette et le titulaire. Et j'ai fait un espèce de L barré qui ressemble en fait à quelqu'un qui teste son stylo pour voir s'il reste de l'encre dedans. C'est très très moche.
J'ai hâte de voir. Là.
Et j'ai aussi passé un coup de stylo le long de la pliure du milieu du petit document. Donc, si jamais vous aussi, vous êtes partie du club des amis de Malicette, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec votre numéro secret que je puisse vérifier si c'est bien vous. Et nous pourrons ainsi échanger ensemble de nos histoires de magie de sorcières.
Est-ce que tu crois qu'ils recrutent toujours dans le club? Parce que moi, j'ai jamais eu l'invite. Donc je suis un
écoute,
peu
envoie une lettre à J'aime lire. Tu seras peut-être... ils te trouveront peut-être un petit exemplaire.
Cher Bayard Poche, je souhaite réparer une injustice qui est de longue date.
Cher Malicette, elle est où ma carte?
Mais je crois que c'était peut-être trop tard par rapport à moi, parce que je suis en train de réfléchir. En 2003, moi, j'avais déjà 11 ans. Donc, je lisais plus, j'aime lire.
Moi, j'ai lu tard, j'aime lire.
Moi, j'étais passée direct à One et Fan 2.
Ah ouais.
Je suis en le même délire.
Ça explique les séquelles.
Moi, je découpais les fiches paroles de Fan 2 de Camaro et Gwen Stefani. Et c'était super.
Ah. Ouais, bah moi je découpais les amis de Malicette.
Oh, Malicette Camaro, même combat.
Kiff, kiff.
Des incompris.
Bon, et toi, qu'est-ce que tu vas nous recommander aujourd'hui, puisque tu ne fais pas d'anecdotes, oui, tu fais des recommandations.
À chaque fois, je cherche, je vous promets, je cherche et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir un truc à raconter et je trouve pas. Et du coup, bah, je recommande des trucs puisque. Bah, je regarde et je lis plein de trucs, donc je me dis que ce serait quand même dommage de pas...
Ah oui, puis surtout c'est des choses que tu aimes, donc tu as envie que d'autres personnes puissent profiter.
Et puis c'est dans le thème, surtout. J'ai eu une grosse passion BD ces derniers temps, et du coup je vais vous présenter une BD qui s'appelle Arcana. C'est le tome 1, parce qu'il va y en avoir 3, et le tome 1 s'appelle Le Coven du Tarot. Donc il y a tout ce qu'on aime dans les ingrédients. C'est de Serena Blasco aux éditions Dracou. C'est un très beau livre d'ailleurs. Je l'avais vu dans ma librairie et j'avais vu la très belle couverture pleine de dorures. C'est un style de dessin qui est très chargé, c'est très touffu et c'est très tout ce que j'adore quand j'ai envie de lire un truc qui m'emporte plein, parce qu'il y a plein de détails et tu as envie de regarder tous les petits détails, comme quand tu lisais Tom Tom et Nana. Ceux qui savent vraiment Tom Tom et Nana, les détails, la finesse des fourchettes. Arcana, de quoi ça parle? Ça parle de tarot, vous l'aurez compris. En fait, ça se passe sur une planète sur laquelle il y a plusieurs grandes îles. C'est pas vraiment des continents, je pense que la planète doit être assez petite. Et chaque île correspond en fait à une des familles du tarot. Donc t'as l'île de coupe, l'île d'épée, l'île de bâton et l'île de denier.
L'île d'épée, ça ressemble à l'île d'épée.
C'est drôle. Et du coup, sur chaque île, tu as une vraie culture en rapport avec la signification de la famille du tarot. Sur chaque île, tu as une sorte de hiérarchie avec la reine d'épée sur l'île d'épée, qui a une cour autour d'elle, cour composée de deux d'épée qui va être... en fait, c'est un peu comme un gouvernement où chacun va avoir une sorte de fonction ministérielle. Je sais pas, genre le... Le 5 de coupe va s'occuper du commerce sur l'île de coupe, etc. Et ça te présente du coup toute l'organisation d'une société où en fait il y a de la magie. Et les personnes qui font de la magie sont les arcanes majeurs. Donc pour les personnes qui connaissent pas trop ou qui ont mal écouté l'épisode du tarot, les arcanes majeurs, c'est les 22 premières cartes du tarot, celles qui n'appartiennent pas ces quatre familles, et donc tu vas avoir le pendu, la justice, la force, la mort, etc. Ça va pas être des cartes qui vont être genre le 12 d'épée, quoi. Et dans le livre, elles sont représentées par des personnes qui ont chacun un pouvoir qui correspond à la signification de la carte. Par exemple, la force, elle a le pouvoir de gérer les éléments. Et les animaux, entre autres. Je trouve que cette carte a l'air très, très, très cool. Enfin, cette arcane, pardon. Parce qu'en soi, elle s'inspire des cartes, mais elle leur donne quand même des caractéristiques propres et des pouvoirs propres. C'est ça qui est cool aussi. Elle invente vraiment toute une société, une mythologie autour des cartes. Et d'ailleurs, il va y avoir souvent des doubles pages, en fait, qui vont t'expliquer soit des trucs sur le tarot, soit des trucs sur ce monde-là, qui régit quoi, qui signifie quoi, etc. Tout ça pour dire que ces 22 arcanes, elles ont, chaque année, elles sélectionnent des apprentis, puisque un jour elles vont mourir, et il faut qu'elles passent leur pouvoir à quelqu'un. Et dès que les habitants des îles ont 15 ans, ils peuvent être choisis par l'une des arcanes, et ils vont avoir un tatouage qui apparaît sur leur bras. Et suivant le numéro qu'il y a sur leur tatouage, elles vont être l'arcane numéro 11, par exemple, qui est... J'aurais dû choisir une arcane dont je connaissais bien le numéro.
Tu l'as autopiégée.
Ça raconte l'histoire de Fauna qui vit sur l'île de Bâton et qui a été choisie par l'arcane de la Grande Prêtresse. Et donc, elle va aller sur l'île d'Arcana avec tous les autres étudiants en magie un peu. Et Flora qui, elle, vit sur l'île d'Épée qui a été choisie par l'arcane de la Mort. Et genre, c'est un peu... tous ses camarades la regardent mal parce que l'arcane de la Mort, c'est un peu comme le prof de défense contre les forces du mal à Poudlard. Il lui arrive toujours des bricoles. Donc, elle n'y va pas l'esprit serein, sachant que de base, elle n'est pas très sereine comme personne. Si vous voulez, elle, c'est plus Serre d'Aigle, alors que Fauna, on est sur une pure Gryffondor. Et les deux font... Les deux se ressemblent beaucoup. Vraiment, elles ont le même visage, le même âge. Oh là là, elles sont nées le même jour. Et elles se retrouvent sur l'île d'Arcana, et vraiment, c'est à nous quatre. Elles sont waouh, mais on est sœurs jumelles! Et en fait, elles ont toutes les deux été adoptées et elles vont essayer.
Elles ont toutes les deux la moitié d'une photo où en fait, si elles les mettent ensemble et paf, elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre!
It's for the way you look at me.
Et ensuite, elles se percent les oreilles.
Non, elles ne se percent pas les oreilles, mais elles développent une amitié. C'est très mignon du coup de les voir devenir sœurs et s'entraider, parce qu'en plus du coup elles n'ont pas du tout les mêmes tempéraments, mais elles se complètent bien l'une l'autre. Et justement en fait c'est en travaillant ensemble et en se complétant qu'elles vont réussir à faire de la magie super puissante. Et du coup tu vas avoir plusieurs intrigues en fait. Tu vas avoir leur relation à elles deux, tu vas avoir un complot, tu vas comprendre qu'il y a des sortes de créatures qui l'envahissent du mal et tu comprends pas trop pourquoi. Et elles vont toutes les deux essayer de comprendre leur histoire, de savoir d'où elles viennent, qui sont leurs parents. Et c'est trop cool. Et il va y avoir deux tomes, je sais pas quand, mais deux autres tomes. Donc je suis ravie.
Tu notes.
C'est pour la jeunesse, donc vous pouvez le lire, je pense qu'à partir de 11 ans, c'est sympa.
Rappelle le titre.
C'est Arcana, le coven du tarot de Serena Blasco.
Notez dans vos petits carnets, si ça vous intéresse. Bon, on s'en est bien sorti pour un réenregistrement.
J'arrive pas à croire qu'on vient de faire ça deux fois.
Ouais, et franchement, je pensais que ça allait être lourdasse la deuxième fois. Ouais. Et petite tape dans le dos à nous-mêmes. Bravo, bravo.
Et franchement, pas mal.
Et j'ai envie de dire petite tape dans le dos à tous les gens qui nous écoutent aussi. Voilà.
Franchement, merci de nous écouter.
Parce que merci. Ouais.
Même si vous n'êtes pas là depuis un an et que c'est le premier épisode que vous écoutez et que vous vous êtes peut-être dit. Bah, qu'est-ce que c'est?
Elles sont vraiment pas douées, les deux là.
Ah oui, c'est vraiment artisanal. Hein.
Si vous avez envie d'en écouter plus, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur toutes les applications de podcast que vous utilisez. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, où on poste à chaque fois des petits visuels qui vont avec nos chroniques et des photos qui vont avec nos anecdotes.
Oui, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Des fois, on fait des petites stories. On partage des dessins qu'on trouve chouettes et des blagues plus ou moins de bon goût.
Et on fait des teasers pour que vous essayiez de deviner quel va être le thème du prochain épisode. Est-ce que vous aviez deviné si vous aviez vu celui-là?
Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on passe le teaser.
Au moment où on enregistre, on ne l'a pas encore fait, mais... mais vous le verrez bientôt. Bon, on va aller se coucher. Du coup, on remercie Moon and Sun pour la musique.
Et Craig, notre ingé son. N'oubliez pas de rester magique.
C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier.